Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du 21 juin 2023. En direct de Washington, Idrissa Sebudia. Pour commencer, les titres. Sénégal, le président Macky Sall s'engage à consolider la démocratie, tandis que l'opposition réplique au gouvernement par un mémorandum sur les violences meurtrières de début juin. En Guinée, le procès du massacre du 28 septembre 2009 devrait reprendre ce mercredi selon des avocats. Soudan, 2,5 millions de déplacés et réfugiés décorent dans les rues de Darfour. Sanctions de Washington contre deux responsables du Soudan du Sud pour violences sexuelles liées à des conflits. Une première. Hunter Biden, fils du président américain, plaide coupable de fraude fiscale et détention illégale d'armes à feu. Des cognements captés sous l'eau pendant les recherches du sous-marin disparu dans l'Atlantique, près de l'épave du Titanic. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président sénégalais Macky Sall a promis mardi de renforcer la démocratie et la liberté dans son pays. Dans sa première réaction publique aux troubles meurtriers déclenchés par la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le point avec Rosine Mounezero.
Nous allons poursuivre notre marche vers le développement économique et le renforcement de la démocratie et de la liberté au Sénégal, dans le respect bien sûr de l'état de droit, a déclaré M. Sall lors d'une visite d'État au Portugal. Je veillerai à ce que le Sénégal respecte les normes démocratiques les plus importantes, a-t-il déclaré à l'issue d'une rencontre avec le président Marcelo Rebelo de Sousa. Le Sénégal est toujours sous le choc des violences qui ont eu lieu entre le 1er et le 3 juin et qui ont fait au moins 16 morts, selon les autorités. Ces manifestations ont été déclenchées par la condamnation du chef de l'opposition Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour avoir corrompu une jeune employée d'un salon de beauté, une condamnation qui le rendra inéligible pour les élections présidentielles de 2024. Monsieur Sall, à Lisbonne, a également promis de veiller à ce que le pays ne soit pas déstabilisé, quelle que soit la source de cette volonté de déstabilisation. Nous allons suivre cela de très près, a-t-il déclaré. Notre profil économique est devenu très attractif. Cette année, nous allons commencer à extraire du pétrole et du gaz. C'est peut-être aussi la raison de toute cette frénésie, a-t-il suggéré.
Pour sa part, le parti de l'opposant Ousmane Sonko a livré sa version des violences meurtrières de début juin dans un mémorandum publié hier mardi à Dakar, Yacouba Ouédraogo.
Ce parti, le PASTEF, donne un bilan à la hausse du nombre de victimes, disant qu'il y a eu 30 décès, dont 4 corps non encore identifiés. Plus de 80% de ces victimes ont été tuées par balle et il y a 157 blessés, dont 15 par balle, selon le député Biram Souley Diop, un responsable du parti de M. Sonko. Le 8 juin, le gouvernement avait publié un livre blanc destiné notamment aux diplomates étrangers et livrant sa part de vérité sur les violences du 1er juin. Pour M. Diop, ce livre blanc est truffé de fautes et de mensonges. C'est un document accusatoire contre Ousmane Sonko alors que ces violences relèvent de la responsabilité historique et entière du président Macky Sall, a encore dit M. Diop. M. Sonko est bloqué par les forces de sécurité chez lui à Dakar depuis le 28 mai, séquestré plus tôt, selon M. Diop.
En Guinée, le procès historique de l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara, jugé pour le massacre du 28 septembre 2009, reprendra ce mercredi après 3 semaines de suspension causée par un boycott des avocats, selon 2 d'entre eux hier. Un règlement avait été trouvé avec les autorités. Les avocats se plaignaient de n'avoir toujours pas été payés au bout de plus de 8 mois. Pour rappel, Moussa Dadis Camara et une dizaine d'anciens officiels militaires et gouvernementaux répondent de dizaines d'assassinats et d'une litanie de crimes de violence sexuelle, actes de torture, enlèvement et séquestration commis dans un stade de la banlieue de Conakry à l'entour le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Plus de 2,5 millions de personnes ont fui le Soudan après plus de 2 mois de guerre entre l'armée et paramilitaires. Si le calme règne à Khartoum au 3e jour d'une trêve qui expire ce matin, la ville d'El Geneina, dans la région du Darfour, est le théâtre depuis plusieurs jours des plus violents combats. Les détails avec Alexandrine Ologno.
À Khartoum, où les raids aériens et les bombardements d'artillerie ont cessé depuis dimanche, plusieurs millions d'habitants survivent sous une chaleur écrasante, sans électricité et souvent sans eau. Au 3e jour d'une trêve qui expire ce matin, la ville d'El Geneina, la capitale du Darfour Ouest, est le théâtre de plusieurs jours de violents combats. Le département d'État américain a cité le 15 juin des estimations faisant état de 1100 morts dans cette ville, où des corps sans vie sont visibles dans les rues, alors que les magasins, souvent cibles de pillage, restent fermés. La guerre a fait au moins 2 millions de déplacés internes, selon le HCR. L'Organisation internationale pour les migrations a dénombré 550 000 personnes qui ont fui vers les pays voisins. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a jugé que le Soudan sombre à une vitesse sans précédent dans une spirale de mort et de destruction.
Les États-Unis ont imposé pour la première fois des sanctions économiques pour des violences sexuelles liées à un conflit à l'encontre de 2 responsables du Soudan du Sud, a annoncé mardi le département du Trésor dans un communiqué. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Les 2 personnes visées par ces sanctions sont James Nando, un militaire, et Alfred Futuyo, un homme politique. Les 2 responsables, selon Washington, ont abusé de leur position d'autorité politique et militaire pour commettre des actes de violence sexuelle contre des citoyens, précise le communiqué du Trésor américain. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a documenté, entre janvier et mars 2023, 920 cas de violence contre des civils, dont 243 contre des enfants. Durant ces affrontements, 405 civils ont été tués, 235 blessés, 266 enlevés et 14 ont été victimes de violences sexuelles. Les États-Unis rejettent toutes les formes de violences sexuelles, dont les femmes et les enfants sont les premières victimes dans les conflits armés, a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wali Adeyemo. Plus jeune pays de la planète, le Soudan du Sud est en proie à l'instabilité chronique et aux violences à caractère politico-ethnique depuis son indépendance en 2011.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden, a plaidé coupable pour des accusations de fraude fiscale et de possession illégale d'armes à feu. Cet accord met fin à une enquête de 5 ans, Nani Talani.
Hunter Biden, 53 ans, a accepté de plaider coupable pour 2 chefs d'accusation de non-paiement délibéré de l'impôt fédéral sur le revenu et a admis avoir possédé illégalement une arme à feu alors qu'il était toxicomane. L'accord conclu entre Hunter Biden et le bureau du procureur de l'État du Delaware, dont il est originaire, devra être approuvé par un juge fédéral. Selon les accusations, Hunter Biden, avocat et lobbyiste, n'a pas déclaré ses impôts à temps sur des revenus de plus de 1,5 million de dollars pour 2017 et 2018, totalisant une dette de 100 000 dollars d'impôts sur ses revenus. Il est peu probable que le fils cadet de Joe Biden soit condamné à une peine de prison. Le président et la première dame aiment leur fils et le soutiennent alors qu'il continue à reconstruire sa vie, a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche, Ian Sams. Nous ne ferons aucun commentaire, a-t-il ajouté.
Une attaque anti-israélienne menée par 2 tireurs a fait 4 morts mardi après-midi en Cisjordanie, où 13 personnes au total ont été tuées en 2 jours de violence. L'attaque a eu lieu près d'une station essence à proximité de la colonie israélienne d'Ilai, entre Ramallah et Naplouse, dans le nord de ce territoire occupé par Israël depuis 1967. Les 2 assaillants ont été tués. Ce nouveau drame intervient au lendemain de violences affrontements au cours d'un raid de l'armée israélienne ayant coûté la vie à 6 Palestiniens à Jénine, où les soldats se sont heurtés à une forte résistance locale. Les États-Unis condamnent l'attaque terroriste contre des Israéliens. très Dilaï, a réagi le département d'État américain dans un communiqué. Nous sommes également inquiets de la poursuite des violences en Israël et en Cisjordanie ces dernières semaines, qui ont tué et blessé des civils palestiniens et israéliens, précise-t-il. Des cognements ont été captés sous l'eau par un sonar pendant les opérations de recherche dans l'Atlantique du sous-marin disparu, avec 5 personnes à bord près de l'épave du Titanic, ont rapporté mardi des médias américains. Les gardes-côtes américains confirment de leur côté avoir détecté des bruits sous l'eau. Selon le magazine Rolling Stone, un avion P-8 canadien a entendu des bruits de coups dans ce secteur toutes les 30 minutes. 4 heures plus tard, un sonar additionnel a été déployé et les cognements étaient encore entendus. La chaîne CNN, citant un document interne du gouvernement des États-Unis, a également fait état de ces bruits sans préciser quand ils avaient été détectés. La Minute Éco, Nanit Talani.
Le FMI estime que les principaux défis de Djibouti sont une croissance plus inclusive et riche en emplois. Dans ce contexte, la révision des exonérations et des baux des bases militaires va contribuer à établir une base de revenus plus équitable, assure le FMI qui vient de terminer une mission à Djibouti. L'organisation note aussi que l'activité portuaire a commencé à rebondir cette année grâce à l'accord de paix en Éthiopie. L'entreprise publique marocaine l'OPC prévoit d'investir 7 milliards de dollars dans une usine d'ammoniac utilisant de l'hydrogène vert. L'OPC, l'une des plus grandes sociétés de phosphate et d'engrais au monde, cherche à atteindre ses objectifs à faible émission de carbone. Terminons par l'Inde qui a approuvé les exportations de blé et de riz vers quelques pays dont le Sénégal et la Gambie, sélectionnés à la suite de leur demande de céréales pour l'exercice 2023-2024. Les exportateurs indiens doivent soumissionner pour le quota de blé et de riz brisé, précise le gouvernement de New Delhi. L'Inde avait interdit les exportations de blé et de riz brisé en 2022 pour faire baisser les prix locaux.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Sénégal bat le Brésil en match amical.
Oui, les Lions de la Teranga se sont imposés 4-2 devant la Seleção à Lisbonne, au Portugal. Si l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a été à l'origine de l'ouverture du score en plaçant un centre millimétré sur la tête de Lucas Paqueta, Sadio Mané lui a volé la vedette en signant un doublé. L'attaquant sénégalais du Bayern Munich a provoqué un but contre son camp de Marquinhos et marqué lui-même un super but d'une frappe enroulée dans la lucarne avant de transformer un pénalty dans le temps additionnel. Le Sénégal, champion d'Afrique 2021, avait fait un match nul, un but partout à Cotonou contre le Bénin samedi dernier en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Brésil restait sur une victoire contre la Guinée 4-1 samedi à Barcelone après une défaite surprise 2-1 contre le Maroc à Tanger en mars.
Ronaldo, buteur décisif contre l'Islande pour sa 200e sélection.
Cristiano Ronaldo a célébré sa 200e sélection internationale en marquant le seul but de la victoire du Portugal contre l'Islande, 1-0. Ce succès permet à la Seleção de conserver son avance en tête du groupe J des qualifications pour l'Euro 2024. Retrouvant la place dans l'équipe type qu'il avait perdue pendant le Mondial 2022, le quintuple ballon d'or de 38 ans a accru son record de sélection en équipe nationale masculine et atteint la barre symbolique des 200 caps. Ronaldo est également détenteur du record du monde de buts en sélection avec un total qu'il a porté mardi à 123 réalisations.
Lionel Messi devrait débuter avec l'Inter Miami le 21 juillet.
C'est ce qu'a indiqué mardi le propriétaire du club du championnat nord-américain MLS que le champion du monde argentin a choisi de rejoindre. Jorge Mas a déclaré que Messi est susceptible de jouer son premier match avec l'Inter Miami contre le club mexicain de Cruz Azul dans le cadre de la Ligue CAPS, une compétition nord-américaine organisée conjointement par la MLS et la Fédération du Mexique de football. Lionel Messi, 35 ans, a révélé le 7 juin son choix d'aller à Miami après deux années passées au Paris Saint-Germain. Le Miami Herald a révélé que Messi rejoignait le club pour un contrat de 2 ans et demi et un montant maximal de 60 millions de dollars par an. Le contrat prévoit également une participation au capital du club à la fin de sa carrière de joueur, selon le journal.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur les récents changements importants effectués au Nigeria concernant l'armée et la sécurité nationale. Le nouveau président, Bola Tinubu, on le sait, a nommé lundi soir de nouveaux chefs de l'armée et de la sécurité 3 semaines après son investiture à la tête du pays. Il a aussi nommé un ancien président de la Commission des crimes économiques et financiers, Nuhu Ribadu, comme son nouveau conseiller à la sécurité nationale. Un reportage de notre correspondant Gilbert Tamba à Abuja.
La décision du président nigérian fait suite à des appels persistants des organisations de la société civile pour que l'architecture de la sécurité soit remaniée pour permettre une bonne gestion de l'appareil sécuritaire du pays. Izioma Izoura est activiste.
I expected it. I thought, okay, that's the right thing to do.
Je m'y attendais. Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire, car la situation sécuritaire au Nigeria n'est évidemment pas bonne. Donc si un président prend ses fonctions, cela devrait être sa priorité. Et je pense que c'est la bonne chose à faire, de commencer avec de nouvelles personnes en qui il a confiance et connaît leurs compétences.
Le président Bola Tinubu a promis de défendre la nation contre la terreur et toutes les formes de criminalité qui menacent la paix et la stabilité du pays le plus peuplé d'Afrique. Mais pour lutter efficacement contre cette menace, il a décidé de réformer le secteur de sécurité et son architecture.
Notre nouveau président a le droit de faire des changements. Donc, quand il veut faire des changements, il n'y a pas de questions à poser. Mais les deux parties doivent travailler ensemble pour atteindre un objectif. Ce sera mieux ainsi.
Nous attendons cela depuis un moment. Nous en avons assez avec ces multiples tueries. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très heureux et nous prions pour que les changements se produisent maintenant.
Entre mai 2015 et mai 2023, plus de 55 000 Nigériens ont été tués, soit par des terroristes, des bandits ou des groupes armés, sous l'administration de l'ancien président Muhammadu Buhari. Daniel Apan est analyste.
Tout le monde s'attendait aux mesures qu'il a prises. Nous attendons à ce que ces nouveaux chefs de l'armée travaillent sans relâche et mettent en place un dispositif de sécurité. Nous attendons à ce que la situation sécuritaire revienne à la normale et cela va faciliter, comme nous le savons, la libre circulation des personnes qui se traduira enfin de compte par un meilleur niveau de vie pour chacun.
Certains estiment que les menaces à la sécurité dans la plus grande économie d'Afrique sont principalement dues à des ressources limitées qui laissent les forces de sécurité nigériennes souvent impuissantes face aux assaillants qui ont multiplié les attaques sur plusieurs fronts ces dernières années. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En Côte d'Ivoire, les personnes vivant avec un handicap veulent que l'autorité électorale tienne compte de leurs besoins afin qu'elles puissent participer au processus électoral. La Confédération des organisations des personnes handicapées et ses partenaires forment des commissaires locaux de la Commission électorale indépendante pour une meilleure prise en compte des besoins de ses membres lors des scrutins électoraux. Un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Ce programme de formation s'articule autour de la prise en compte de manière spécifique des personnes en situation de handicap. Ce projet vise à faire en sorte que les personnes vivant avec un handicap arrivent à participer au processus électoral selon Alfred Kouassi, chef de projet Élections inclusives à la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire.
Il s'agit de voir comment adapter les lieux de vote pour qu'une personne personnes, par exemple en fauteuil roulant, puissent avoir accès au bureau de vote pour leur éviter d'avoir les mêmes problèmes comme celui que moi j'avais eu. En fauteuil roulant, j'avais un bureau de vote à l'étage et donc je ne pouvais pas avoir accès à mon bureau de vote. Comment faire en sorte que l'information qui est donnée dans la période électorale puisse être comprise et même perçue par tous, notamment les personnes avec un handicap sensoriel? Et c'est la même chose quand on fait les affiches, les personnes non voyantes ne savent pas ce qui se passe.
Les personnes vivant avec un handicap, dans les premiers moments de leur revendication, avaient obtenu, surtout pour les malvoyants, d'accéder à l'isoloir avec la personne de leur choix lors des scrutins. Ce vote sous tutelle, affirme Alfred Kouassi de la COPH, ne garantit pas le caractère confidentiel et secret du vote, plaidant pour que le secret du vote soit garanti pour ces personnes.
La personne de son choix qui l'assiste, assiste aussi au choix qu'il effectue de son candidat. Mais nous n'avons pas le secret de notre vote et c'est pour tout ça que nous voulons que des mesures soient prises pour qu'on puisse garder le secret de notre vote.
Conseillère technique du président de la CEI en charge de la communication, Indira Yanin Domingo, trouve ce projet opportun vu sa pertinence.
Cette formation, justement, permet à nos agents locaux de mieux appréhender la question de l'handicap, hein, par des techniques dans le respect et la bienveillance, malgré les situations d'affluence qu'il peut y avoir dans les bureaux les jours du vote.
Pour les handicapés moteurs, l'accès au bureau de vote est un véritable obstacle. Docteur Koulibaly Abdourahmane, formateur, nous en parle.
Cette accessibilité aussi concerne l'accès du bâtiment, mais l'accès aussi aux outils d'élection. Par exemple, les bulletins, l'isoloir et tous ces éléments-là, de telle sorte que son secret de vote soit préservé comme un souterrain à part entière.
Salimata Touré, commissaire électoral départemental de la commune d'Abobo, salue cette initiative.
Les possibilités qu'on nous donne de pouvoir créer des conditions d'accessibilité aux personnes en situation d'handicap au lieu de vote, ça montre que la CEI est soucieuse de prendre tout le monde en compte pour le processus électoral.
Cette formation des commissaires locaux de la CEI est un projet cofinancé par l'Union européenne et l'ONG internationale Mission chrétienne pour les aveugles. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés hier mardi 20 juin, porte-parole plutôt donnée à un réfugié établi au Tchad et ayant fui les violences intercommunautaires au Cameroun. Il décrit ici les conditions de vie difficiles dans le camp de Guilmé au Tchad et lance un appel au HCR. On l'écoute.
Je m'appelle Mamadou Abaka, je suis réfugié ici au camp de Guilmé, venant du Cameroun. Je suis dans ce camp parce que j'ai fui la guerre intercommunautaire depuis le Cameroun pour ici. Donc c'est un conflit qui a eu lieu entre deux communautés, une arabe et de l'autre côté musulman. Ici, laquelle je peux dire que c'est une accueil chaleureuse, parce que au moment où nous étions venus au fleur, donc on a constaté que tous les membres du gouvernement, y compris ceux de la CRT et la Sénat également étaient présents, ils nous ont accueillis, l'accueil était chaleureuse pour moi. En ce qui me concerne, je suis venu seul parce que au moment où j'ai fui, la guerre a commencé, j'ai laissé la famille, donc je n'avais pas eu de traces de ma famille, donc j'étais sorti. Eux aussi, ils avaient pris d'un côté, ils étaient sortis, ils étaient partis de l'autre côté. Moi également, j'étais sorti d'un côté et je me retrouve finalement ici à seul. Donc ma famille est restée de l'autre côté. Donc, je me sens pour le moment, je me sens, sauf que ma famille me manque, mais je me sens mieux. J'ai prié déjà à Dieu parce que le HCR nous a gardé et la Sénat aussi veille également sur nous. Donc, sauf que on a beaucoup de manquements quand même. Bon, le quotidien, j'espère que ça va de temps en temps, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut aussi améliorer. Dans ce camp, pour le moment, je ne pratique aucune activité, sauf que je travaille avec une ONG, ONG HIAS, qui est là. Donc, je travaille avec cette ONG en tant que point focal. Oui, c'est un travail, bon, pour ne pas dire qu'on ne gagne pas grand-chose, mais c'est juste pour ne pas s'asseoir comme comme ça et croiser les bras, on se bat quand même avec. Et on a beaucoup de difficultés ici dans ce camp. Dieu merci, au départ, le HCR a fait de son effort. Le PAM également a fait de son effort. On a eu des rations, mais sauf que les deux derniers mois, on a eu beaucoup de difficultés. On n'a pas eu de rations. Et actuellement, encore en saison de pluie, on a vraiment du mal. Je ne sais pas si vous pouvez constater un peu partout. Là, nous sommes inondés. Nous sommes inondés ici dans le camp. Donc, si c'est possible, nous voulons encore une aide. Un mot pour la fin, je vais dire, si possible, le gouvernement tchadien, le HCR, y compris tous les ONG qui viennent de temps à autre ici au camp, ils peuvent constater les difficultés que les réfugiés ont ici. Donc, je m'aimerais à ce que les choses puissent changer. Donc, pour moi, il faudrait que d'abord le camp soit remblé, il faudrait qu'il y ait les canalisations pour que l'eau puisse couler normalement, parce que nous sommes inondés carrément ici. Donc, merci.
Un réfugié camerounais du camp de Guilmé au Tchad.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Pendant ce temps, au Rwanda, de nombreux réfugiés se réjouissent des projets d'aide et d'autofinancement dont ils bénéficient dans les camps. Ils souhaitent tout de même que leur pays d'origine et la communauté internationale s'investissent davantage pour leur retour au bercail. De Kigali, un reportage de Jean Damascène Manishimwe.
Ils sont plus de 125 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda dans 5 camps à travers le pays. Plus de 59% d'entre eux sont des ressortissants de la République démocratique du Congo et plus de 40% des Burundais. Dans les camps, les réfugiés tentent d'améliorer leur bien-être avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés et du gouvernement rwandais. Ils ont initié des projets d'appui à l'autofinancement des réfugiés et ces derniers développent des activités génératrices de revenus.
Quand on cohabite avec quelqu'un, on partage les services de base comme l'alimentation en eau, les services éducatifs, les services sanitaires, les marchés, les routes. On vivait dans un même environnement. Nous avons initié ce projet pour alléger la pression des réfugiés sur la population locale.
Dans les camps de réfugiés, les enfants constituent une bonne partie des occupants. Ils ont une école et comme les nationaux, ils jouissent de programmes divers comme celui de l'alimentation scolaire.
La vie des enfants réfugiés dans les camps n'est pas du tout misérable. Ils vivent dans les mêmes conditions que les nationaux de notre école. Quand on distribue le matériel scolaire, on le fait de la même façon pour les Rwandais et pour les réfugiés.
Même si les réfugiés sont assistés par le HCR, le gouvernement rwandais et d'autres organismes, ils souhaitent tout de même que la communauté internationale se mobilise davantage et plaide pour le retour dans leurs pays respectifs.
Nous avons fui à cause de la sécurité. Moi, j'ai fui en 2016 et je pense que rien n'a changé. Le Rwanda a vécu la même situation dans le passé, mais il est sécurisé aujourd'hui. Que notre pays, le Burundi, fasse de même, ainsi nous rentrerons.
Nous demandons à la communauté internationale de plaider pour nous, les démunis, en fait de rentrer chez nous.
Même si le Haut Commissariat pour les réfugiés promet une assistance continue à ces réfugiés vivant au Rwanda, ils déplorent tout de même la persistance des handicaps au retour des réfugiés dans leur pays.
En fait, ce que nous souhaitons, c'est vraiment une solution durable pour la question des réfugiés. Et la solution durable, c'est le rapatriement des réfugiés dans leur pays, le rapatriement volontaire. Pour le Burundi, la situation s'est améliorée et les gens peuvent partir. Pour les réfugiés congolais, la plupart viennent de l'est de la République démocratique du Congo. Et une zone qui n'est pas encore totalement stable, dans cette condition, il sera difficile d'organiser un rapatriement.
À part plus de 125 000 réfugiés, le Rwanda abrite depuis septembre 2019 les migrants venus de Libye au terme d'un accord entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Union africaine et le gouvernement du Rwanda. Jusqu'à présent, plus de 1200 ont été accueillis et plus de 600 d'entre eux ont déjà trouvé des pays d'accueil. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Ouagadougou sur 102.4 FM. À Douala, Radio Balafon. Raga FM, Kisangani. À Zinde, Niger, Enfani FM. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seboudia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.